également dans l'actualité. On parle beaucoup aujourd'hui évidemment du chanteur Kenji Girac. Il a été blessé par balle la nuit dernière dans les Landes à Biscarrosse, sur une aire d'accueil de gens du voyage. Lui parle d'une erreur de manipulation de cette arme. Mais le procureur, ce soir, dans un communiqué, annonce ouvrir une enquête pour tentative d'homicide volontaire. On a des informations également sur son état de santé. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Pessac. On va tout de suite retrouver notre journaliste Marion Russel. Marion, il a été opéré ce soir et il est sorti du bloc, c'est ça ?
Ce que l'on sait, c'est que Kenji Girac est sorti en fin de journée du bloc opératoire et a pu être admis dans un service hors réanimation, ce qui laisse à penser que son état de santé est stabilisé, même si, bien sûr, il nécessite toujours une surveillance. Kenji Girac qui a donc pu parler avec les enquêteurs, mais il ne s'agit pas encore des auditions officielles. Celles-ci auront lieu une fois que l'état de santé du chanteur le permettra. Il a aussi pu subir une série de soins, notamment donc cette chirurgie pour traiter cette blessure au thorax qu'il a donc subi dans la nuit de dernière vers 5h30 du matin. On a aussi vu tout au long de la journée défiler des proches de Kenji Girac, notamment son manager, aussi accompagné de sa maman, qui sont venus au chevet du chanteur, aussi des cousins, des oncles, des proches venus témoigner de leur soutien. Et c'est tout le clan Girac qui semble aujourd'hui faire front aux côtés du chanteur.
Merci beaucoup Marion Russel. Il est donc sorti du bloc, il est conscient. On va en parler avec nos invités. Stéphane Selamy qui est resté avec nous, grand reporter police-justice pour BFM TV, avec Guillaume Fard, consultant police-justice. Bonsoir à vous Guillaume. Oui. Candice Mahou qui nous a rejoint, chef du service culture de BFM TV, et Christian Flèche, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Merci beaucoup de nous avoir rejoint ce soir. Stéphane, donc il est sorti de son opération, qui s'est visiblement bien passée. Il est conscient. Très gros dispositif de sécurité autour de l'hôpital ce soir.
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un très gros dispositif. En tout cas, il y a des consignes qui ont été passées pour renforcer la sécurité, notamment auprès des agents de sûreté de cet hôpital de Pessac. Et également, ce qu'on comprend, c'est que des patrouilles de police ou de gendarmerie devraient aussi effectuer des rondes autour de l'établissement, de cet établissement hospitalier.
Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé précisément la nuit dernière, pour ceux qui n'auraient pas suivi aujourd'hui? Que s'est-il passé à 5h du matin dans cette aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse, Stéphane? Alors,
nous avons une équipe du SAMU qui est appelée après une blessure par balle, donc dans cette aire de passage de la communauté des gens du voyage du côté de Biscarrosse, dans les Landes. Il est 5h25 précisément. Ils arrivent sur place et ils se retrouvent donc face à cette personne blessée, consciente. C'est un homme et qui décline son identité. Et là, on apprend que c'est Kenji Girac, donc le chanteur, âgé de 27 ans. Très vite, les premiers soins lui sont portés et les médecins du SAMU comprennent qu'il a été victime d'une blessure par balle transfixiante, puisque le projectile a traversé, est entré au niveau du thorax et ressorti au niveau du dos. Là-dessus, donc les premiers soins lui sont portés. Il va être évacué vers l'hôpital de Pessac, spécialisé en cardiologie.
Il est évacué conscient.
Oui, il est évacué conscient. Ça, c'est établi. Et ensuite, ce sont les secours, c'est important de le préciser, c'est ce qu'a fait ce soir le procureur de la République de Mont-de-Marsan dans son communiqué. Ce sont les secours qui ont alerté les gendarmes, qui sont ensuite intervenus vers 6h40 du matin, toujours, donc un peu plus d'1h20 après les secours portés à Kenji Girac. L'enquête a démarré, les premières investigations, l'arme n'a pas été retrouvée, donc qui a occasionné cette blessure au chanteur. Le procureur, dans son communiqué, parle de premiers témoignages recueillis qui paraissaient confus, tant sur les circonstances des faits que sur les lieux exacts où ils s'étaient produits. Mmh. Donc là, il y a quand même déjà des zones d'ombre qui apparaissent tout de suite, et donc cette arme qui n'a pas été retrouvée. Et ce qu'on apprend après, puisque ce sont les enquêteurs de la section de recherche de gendarmerie de Pau qui ont été saisis des investigations, cette arme va être retrouvée sur les indications de membres de la famille du chanteur.
Donc c'est la famille qui a dit, voilà, on sait où est l'arme.
On va vous dire où elle se trouve. Elle a été déposée dans un buisson. Le procureur de la République parle d'un pistolet automatique de calibre 11. C'est ce qui est dans son communiqué, ce qui interroge aussi par rapport au calibre imprécisé. Kenji Girac, lui, a été entendu par les gendarmes, mais pas sur procès-verbal, c'est important de le préciser. très brièvement, il
l'a expliqué. Ça veut dire quoi, ça, pardon? Ça veut dire que c'est pas une audition à
voilà,
proprement parler.
C'est pas sur PV, vous pouvez pas vous en servir. Parce qu'il pourrait ensuite dire, mais je vous ai jamais dit ça. Et donc là, en l'occurrence, il n'a pas de preuve formelle de ses déclarations sur procès verbal. Ce qu'il va dire, c'est que, effectivement, il a acheté cette arme peu auparavant, mais il va pas s'expliquer sur les circonstances de cette blessure, ni pourquoi il a manipulé cette arme à cette heure, on va dire, avancée de la nuit. Et lui va parler d'un accident, donc au cours du maniement de ce pistolet automatique.
Il parle d'un accident avec cette arme qu'il aurait achetée à une brocante. C'est ce qu'il aurait expliqué aux enquêteurs. Cette arme, donc, qui a été retrouvée sur indication des membres de la famille dans un buisson proche des lieux où il a été visé, touché en tout cas. Guillaume Fard, on ne sait pas à l'heure où on parle si cette arme est vraiment l'arme qui a été utilisée et qui a blessé Kenji Girac.
Non. On a pu parler d'un Colt 45 avec là aussi une précision toute relative. Le procureur de la République parle de calibre 11. Alors est-ce qu'il a omis le point 43 ? Parce que, dans ma connaissance, les Colt 45 c'est du calibre 11-43 ou pas ? Enfin, tout cela reste encore à préciser. Mm-hmm. Et puis pour une analyse balistique, c'est bien d'avoir l'arme, c'est mieux d'avoir l'arme et la balle. Et le procureur ne nous dit rien de cette balle, si ce n'est qu'elle a traversé. Mais est-ce qu'elle a été retrouvée? Est-ce qu'elle est à la main des enquêteurs? Et est-ce que sur le plan balistique, on pourra analyser et l'arme et la balle pour établir que c'est la bonne arme et le bon projectile? Pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Et c'est assez décisif pour l'examen balistique, puisque selon nos informations, sa déclaration, c'est que en manipulant cette arme, il s'est blessé très grièvement. Bon, si vous laissez de vous tirer dans le thorax vous-même, essayez de faire le geste. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Je dis pas que c'est impossible, mais que c'est pas la majorité du genre. Mm-hmm. Et donc, l'examen en médecine légale, à côté de l'examen balistique, doit pouvoir corroborer ces déclarations. Puisque ce qui est assez surprenant, c'est que l'arme n'est pas retrouvée avec lui. Comme le disait Stéphane, elle est retrouvée plus tard. Elle est retrouvée partiellement démontée. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de balle chambrée. Bon, c'est un peu étrange. Et est-ce qu'elle a été manipulée par d'autres? Est-ce que c'est la bonne arme? Bon, il y a beaucoup de flou. D'ailleurs, le procureur, dans son communiqué, utilise un qualificatif. Il dit c'est confus.
Oui, c'est confus.
C'est confus. C'est le moins qu'on puisse
c'est
dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous dites le chargeur n'a pas été retrouvé. Avec le pistolet. La balle n'a toujours pas été retrouvée à l'heure où on parle.
On nous en dit rien.
On nous en dit rien, en tout cas. Christian Flech, pourtant, ce sont des éléments déterminants dans l'enquête. C'est ça qu'ils recherchent actuellement sur cette terre de voyage, les enquêteurs?
Il y a plein de choses. D'abord, effectivement, l'arme ne peut pas fonctionner sans le chargeur. Donc, on a retrouvé l'arme, il n'y a pas le chargeur. Ça veut dire qu'il manque déjà quelque chose. Ensuite, il n'y a pas non plus de douille. Quand on utilise un pistolet, il y a une douille qui est éjectée et qu'on n'a pas retrouvée. Et enfin, effectivement, la balle, elle peut être passée au travers du corps et donc être dans la nature, comme elle peut être dans les vêtements, suivant la puissance et l'origine du tir.
Alors, on va faire le point avec Lisa Hadef, justement, parce que ça pose beaucoup de questions. C'est quoi la réglementation, la législation en France? Est-ce que c'est si facile que ça de se procurer une arme? Lui, il évoquerait visiblement un achat dans une brocante. Racontez-nous un petit peu, vous êtes penché sur les règles.
Les armes sont classées en quatre catégories en fonction de leur dangerosité. La catégorie A est interdite, sauf exception professionnelle. La catégorie B, vous le voyez, est soumise à autorisation. Catégorie C, soumise à déclaration. Et enfin, la catégorie D, elle, peut être achetée et détenue librement. Les armes de catégorie A sont certaines armes à feu de poing, des semi-automatiques ou des automatiques, souvent destinées à l'usage militaire. Les armes de catégorie B sont celles qui peuvent être utilisées dans un cadre de tir sportif, par exemple, ou en cas de risque professionnel quand le porteur de l'arme est exposé à un danger pour sa sécurité. La catégorie C correspond aux armes utilisées par les chasseurs. Par exemple, celui qui veut vendre une arme de catégorie C doit avoir un document de déclaration en préfecture et l'acheteur, lui, doit avoir un permis de chasse en cours de validité ou une licence de tir tamponnée de l'année en cours. C'est vraiment très spécifique. Et pour la catégorie D que vous voyez là-bas, ce sont tous les objets pouvant être des armes dangereuses, les poignards, les bombes lacrymogènes, les matraques électriques, mais aussi les vraies armes neutralisées et donc censées être inoffensives. Maintenant que vous avez en tête les différentes catégories d'armes, la législation, elle est très claire. La vente d'armes entre particuliers est illégal, que ce soit sur une brocante ou ailleurs, sauf pour certaines armes, notamment les armes de catégorie D, qui peuvent être vendues sous certaines conditions. Pourquoi ? Parce que ces armes sont théoriquement inoffensives, comme je vous l'expliquais. Ce sont des armes de guerre exposées dans des musées, par exemple, ou des armes de collection. Et si les armes sont un héritage familial, le vendeur a le droit de s'en débarrasser contre de l'argent, si et seulement si la vente est constatée par un professionnel comme un armurier, notamment pour vérifier que l'acheteur a lui aussi le droit d'acheter cette arme. Et en dehors de cette règle, ne serait-ce que transporter une arme de catégorie D, c'est risqué, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende minimum.
Merci beaucoup Lisa. Là, en l'occurrence, donc, il s'agit de quelle catégorie d'arme ?
Là, il s'agirait d'une arme de catégorie B, enfin après, selon nos informations.
Hein, donc soumise à autorisation ?
Oui, soumise à autorisation, mais je ne crois pas avoir lu ni entendu que Kenji Girac était tireur sportif avec une licence, que l'arme qu'il utilisait sur un stand était un Colt 45. Et puis de toute façon, même si vous remplissez tous ces critères, l'arme, vous l'utilisez sur le stand de tir, et sinon, il y a des conditions de conservation bien précises, dans une mallette, au coffre, et en séparant le chargeur de l'arme. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait d'en faire un usage ou de la manipuler à 5 heures du matin. Et puis, dans ce pays, ça a été rappelé par l'ISADEF, on a le cas des armes de chasse, il y en a beaucoup en circulation, soumises à autorisation, plusieurs millions d'armes de chasse, 4 millions selon les chiffres qui ont été avancés par le ministère intérieur pour 1 million de chasseurs. Et puis, on a 230 000 de mémoire tireurs sportifs. Là aussi, des armes de tir sportif en circulation, un bon million, avec différents types d'armes, armes de poing, armes longues. Bon, et après, il y a, et c'est peut-être ça aussi qui va être mis à jour dans le cadre de cette enquête, une énorme zone grise, c'est-à-dire que toutes les armes ne sont pas nécessairement des armes soumises à autorisation, soumises à déclaration, détenues légalement et conformément au droit par un chasseur ou un tireur sportif. Ça peut être les deux à la fois. Il y a beaucoup d'armes qui sont des héritages familiaux ou alors des armes qui servent pour de mauvaises raisons, qui sont en possession de délinquants.
Candice Mahou, on connaît le rapport de Kenji Girac avec les armes ?
Ben, on sait qu'il est très distant normalement. C'est vraiment pas. En fait, on dit là, ça fait plusieurs fois qu'on dit il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En tout cas, même dans cette situation et dans le lien de Kenji Girac avec des armes, alors que depuis 10 ans, il construit sa carrière sur le fait de dire que justement, il a envie que les gens du voyage ne fassent plus peur, que quand il va au café, les gens à côté ne s'écartent pas de sa communauté, et justement que finalement, les gens du voyage, pour lui, c'est des gens qui dans un champ font de la musique. Et apporte la joie et sont plutôt solaires comme il est, comme vraiment il semble être en tout cas, et l'image qu'il donne depuis 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est clair que c'est pas du tout l'image en tout cas qu'il voudrait véhiculer. Il a jamais dit qu'il était passionné par les armes, il a jamais dit qu'il collectionnait même les armes, il a jamais dit qu'il avait un lien particulier d'affection.
Et ça fera partie évidemment des points de l'enquête. On sera avec un spécialiste tout à l'heure des armes à feu. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair. Juste avant, je voulais qu'on aille retrouver Boris Karlamov. Vous êtes sur cette aire d'accueil de gens du voyage, juste à côté, donc à Biscarrosse, Boris. Le procureur, dans son communiqué, évoque la présence de 80 caravanes environ sur cette aire de passage, qui appartiennent toutes à des membres de la famille de Kenji Girac ou alors à des très proches de la famille de Kenji Girac. C'est une communauté familiale finalement là-bas et on imagine à quel point ça doit être particulier l'atmosphère ce soir.
Alors non, toutes les caravanes n'appartiennent pas à la même famille de Kenji Girac. Il y a 80 caravanes actuellement présentes sur cette aire d'accueil des gens du voyage. Il y a forcément la famille de Kenji Girac, mais il y a également des familles ou encore des personnes qu'il croise de temps en temps lorsqu'il se rend sur cette aire d'accueil des gens du voyage. Kenji Girac, c'est la deuxième fois qu'il s'installe ici à Biscarrosse. Il est présent dans cette commune des Landes depuis quelques jours. Il a l'habitude de se promener en ville, d'aller au supermarché, de se rendre au casino. Il était dernièrement au casino ou encore dans un bar hier après-midi. Mais c'est vrai que dans cette terre d'accueil des gens du voyage, il y a comme une omerta, une loi du silence qui s'est installée depuis la nuit dernière. Il est très difficile d'échanger avec les gens de la communauté. Moi, on a réussi tout à l'heure quand même avec Valentin Rivoli à échanger avec une personne que l'on nommera Paco. Paco, il nous explique eh bien, que tout le monde ici sur cette terre d'accueil des gens du voyage connaît Kenji Girac. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est tranquille, c'est malheureux ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Voilà ce qu'il nous explique Paco. Et puis Paco, surtout, il explique que même s'il n'y a pas des liens de sang avec Kenji Girac, eh bien, c'est une grande famille qui est présente sur cette aire d'accueil depuis maintenant un peu plus d'une semaine. L'émotion, elle va au-delà même de ce camp d'accueil des gens du voyage. Elle touche également la mère de Biscarrosse, Hélène Larézé, qui a accepté tout à l'heure de témoigner au micro de Valentin Rivoli. Je vous propose donc d'écouter la mère de Biscarrosse.
C'est une nouvelle qui est un petit peu consternante, forcément. Après, la bonne nouvelle, c'est que le pronostic de Kenji Girac ne soit plus engagé à cette heure-ci. Pour ce qui concerne les circonstances, je n'en sais pas davantage. Que ce soit Kenji Girac ou toute autre personne qui est victime comme ça d'une blessure par arme, forcément, ça crée de l'émotion. A fortiori, quelqu'un qui est aussi populaire. Mais ça aurait été un autre de mes administrés ou un autre touriste, j'aurais été pareil, ému et j'aurais pris de ses nouvelles. Donc voilà, je lui souhaite un prompt rétablissement comme tous mes élus, bien sûr, et tous ces fans dont je fais partie.
Et une émotion qui touche donc l'ensemble de cette commune de moins de 15 000 habitants ici dans le département des Landes. Alors, ce que l'on peut vous confirmer, Julie, c'est bien que la famille de Kenji Girac, ses plus proches, était à son chevet tout au long de la journée au sein même du CHU de Bordeaux où il a été hospitalisé. Il n'y avait que son oncle qui était présent cet après-midi dans ce camp des gens du voyage, mais son oncle, il n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.
Merci beaucoup Boris Karlamov pour toutes ces précisions. Je reviens au communiqué du procureur de la République sur l'atmosphère qui règne sur place et qu'évoque Boris Karlamov, sur la présence de ces 80 caravanes sur cette terre qui appartiennent toutes, c'est bien ça Stéphane, à des membres de la famille ou à des proches de Kenji Girac.
Oui, c'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Mont-de-Marsan dans son communiqué. Il dit très clairement que avant de quitter l'aire d'accueil avec le blessé, les pompiers donc ont informé les services de gendarmerie de Biscarrosse, ces derniers n'ayant pas été avisés précédemment. Les militaires de la gendarmerie donc se rendaient sur place alors que le blessé avait déjà été évacué par les secours. Ils constataient la présence de 80 caravanes sur l'aire appartenant toutes à des membres de la famille ou à des proches de Kenji Girac. Et là, c'est là aussi où il parle de témoignages recueillis, qui paraissaient confus, tant sur les circonstances des faits que sur le lieu exact où il s'était produit.
Et l'ouverture donc d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire. On est avec l'un de nos invités, Nino Baliardo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes le cofondateur des Gypsy Kings. Vous êtes un ami de Kenji Girac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le connaissez bien, Kenji Girac. Est-ce que déjà vous avez eu de ses nouvelles ces dernières heures ?
Oui, bien sûr. Bonsoir d'abord. J'ai eu de nouvelles par son oncle Emilio, que c'est mon grand ami, comme un frère, et qui nous a téléphoné. Et que bon, c'est vraiment un accident, ce qui est arrivé. C'est lui-même qu'il a manipulé des larmes et qui s'est blessé seul, quoi. Il n'y a pas d'autre chose.
Et vous y croyez à cette hypothèse ? On rappelle que ce soir, le procureur a ouvert une enquête pour homicide volontaire.
Oui, mais c'est normal qu'ils approfondissent.
Pour tentative d'homicide volontaire, pardonnez-moi.
Qu'ils approfondissent, c'est normal, mais bon, mais il n'y a pas de tout ça, pas du tout.
Est-ce que vous connaissez le rapport de Kenji Girac aux armes à feu ?
Vous savez, les gitans, nous, chez nous, on aime la chasse, on a des fusils, on a des chiens pour la chasse, on a des armes, bien sûr, comme les chasseurs, tout ça, quoi. Mais Kenji Girac, c'est des stars, c'est des chanteurs, c'est des stars de la communauté gitane. Et d'abord, il y a beaucoup qu'on pleure, qui ont pris au Seigneur. Beaucoup de gens prient des églises pour lui, pour qu'il se rétablisse bien, quoi. Vous voyez ?
Oui, oui. Mais là-dessus, j'insiste, vous dites, finalement, dans cette communauté, tout le monde a des armes. Donc c'était le cas de Kenji Girac aussi. Il aimait lui aussi chasser, par exemple.
Tous les gitans, ils ont des fusils. C'est tous des chasseurs. Ils aiment beaucoup la chasse, vous voyez. Mais voilà, mais c'est pas ça que les gens puissent s'imaginer. Non, pas du tout. Kenji, c'est un chanteur, c'est les stars des gitans. Et on est très, très, très malheureux pour ce qui est arrivé. Vous voyez.
Il est populaire dans cette communauté, Kenji Girac.
Oula, c'est les stars de chez nous maintenant, vous voyez, et pour toute la jeunesse surtout.
Et ça n'a jamais créé de rivalité, de jalousie au sein de cette communauté?
Ah non, pas du tout, au contraire. Kenji, Manita Zeplata, Django Reinhardt, Camarón de la Isla, et ça c'est des grands artistes, c'est des grands artistes. Et nous, c'est la fierté des gitans, vous voyez, ces hommes-là.
Ils n'avaient pas ils ressentaient pas une certaine pression, puisque vous le dites, voilà, ils portaient un petit peu cette communauté, c'est le porte-voix de cette communauté gitane. Est-ce que vous savez, vous, si voilà, il s'est déjà senti un peu sous pression?
Non, pas du tout. Pas de pression. Au contraire.
Si je dis ça, vous restez avec nous, Nino Baliardo. C'est parce qu'un oncle, un autre oncle de Kenji Girac, dit que la dernière fois qu'il l'a vu, il y a une dizaine de jours, il lui aurait dit qu'il en avait marre de tout ça, je cite. Et donc, l'hypothèse d'une tentative de suicide a également été évoquée.
Pas du tout.
Vous n'y croyez pas?
Pas du tout. Non, pas du tout. Un gitan, il ne peut pas se suicider, déjà. C'est impensable parce qu'on ne rentre pas avec Jésus. On n'est pas de cette terre. Après, vous voyez, on est très croyants chez nous.
Candice Mahou, vous souhaitiez ajouter un mot?
Oui, c'était exactement ce que je voulais vous demander. Voilà, est-ce que finalement, c'est vrai que... il a une telle image, il a peut-être essayé de voilà d'aider des camarades, enfin peut-être qu'il a eu cette responsabilité sur les épaules qui fait que peut-être c'était dur à, finalement plus dur à vivre que l'image qu'il ne laissait paraître.
Non, écoutez, chez nous, moi, j'étais dans le groupe Gypsy King, c'est moi qui ai fait le Joby Joba, vous voyez. Et écoutez, je suis resté toujours pareil, les Gypsy King, Manitas. D'ailleurs, c'est arrivé à Manitas. Manitas, par contre, lui, il avait toujours un petit revolver sur lui, toujours un 6.35, je me rappelle, parce que j'étais toujours avec lui, avec Manitas, avec mon oncle. Quoi. Donc, il avait parti le coup, il savait que fait mal au doigt avec une barre de 6.35. Vous voyez? Et c'était un accident, c'est lui-même qui se l'avait fait, quoi. C'est pas d'autre chose. Mais si ce serait quelqu'un d'autre, madame, le camp, ce serait une révolution. Non, pas du tout. Non, Kenji, c'est un chanteur. C'est la star des gitans et on l'aime comme ça.
Donc, qu'on manipule une arme à 5 heures du matin oui. dans sa caravane et qu'on puisse se tirer dessus, c'est pas quelque chose qui vous surprend tant que ça?
On a pas d'heure, nous, pour jouer dans la guitare, pour chanter, ou quelqu'un pour nous faire voir une arme. Oh, c'est joli, je vais faire moi voir. Boum, ça, c'est parti, c'est un silence, c'est pas autre chose, vous voyez. Chez nous, il n'y a pas d'heure. Nous, on est toujours dehors en train de parler, on sait 6, 7, on fait un feu, on prend les guitares, et ça peut être l'autre, il va venir à me dire, regarde le fusil que j'ai acheté. Pour la chasse, vous voyez, et c'est spontané chez nous, c'est pas...
C'est vrai que voilà. Pour nous, c'est un peu surprenant, vous pouvez peut-être l'entendre, parce que c'est vrai que c'est...
Au bout, à 5 heures du matin, on ne regarde pas un arbre.
Non,
on peut faire n'importe quoi à 5 heures du matin chez nous.
D'accord, non, mais c'est vrai que Kenji Girac, il est assez loin de cette image. Il est assez loin de cette image-là. Il veut véhiculer une image de vous tous chantant dans un en famille, tous ensemble, dans un champ. Donc c'est vrai qu'on l'imagine quand même beaucoup
nous,
moins avec une arme.
Fête, mais... entre nous. Vous savez, la famille Bayardo, nous, on fait qu'à la fête entre nous. Et la famille Kenji, c'est pareil. On se connaît de toujours. On est comme on est la famille. On est pareil. On vit pareil. C'est des gens extraordinaires. Vous voyez, c'est des gens très gentils. Ils sont adorables, ces gens-là.
Mais justement, comme c'est la famille, est-ce que, pardon, mais par exemple, j'imagine, moi, si... Enfin, je sais pas, je vais me dénoncer toute seule, là. Mais si ma famille commet quelque chose, peut-être que j'ai envie de les couvrir aussi. C'est ça aussi le clan, peut-être. C'est ça aussi le code d'honneur de cette famille que vous avez. Est-ce qu'on peut pas... Parce qu'on a quand même le procureur qui dit que les conditions sont floues, que tout le monde ne donne pas la même version. Est-ce que quand même, quand on est la famille, finalement, on va pas se couvrir aussi?
Bon, mais écoutez, se couvrir, c'est sûr que chez nous, les gitans, on se couvre, c'est sûr. Mais pas dans des moments comme ça. Ce n'est pas possible de se couvrir, là. Mmh. Vous voyez? Parce qu'ils nous ont fait si haut. Si ça serait autre chose, ça serait déjà, vous voyez. Non, pas du tout. Non.
Christian, vous avez une question à poser à Nino Bayardo?
Non, je voulais dire que ce qui serait mieux, effectivement, c'est que ce ne soit pas flou, au moins, sur l'endroit où ça s'est passé.
Comment?
Le mieux, ce serait de savoir également à l'endroit où ça s'est passé. Ça a l'air d'être flou aussi, ça.
Oui, il y a encore beaucoup de flou. Sur les circonstances,
oui,
mais...
Bien sûr, il y en a des tas de faire, c'est sûr. Mais bon, pour moi, pour la communauté, non, pas du tout.
Oui, vous n'y croyez pas.
Non, pas du tout. Attendez.
Et alors, une question, justement. Kenji Girac est devenu une énorme star. Il est toujours resté fidèle à son mode de vie. Voilà, c'est pas un mythe quand on dit qu'il continue à dormir dans des caravanes.
Vous voyez bien la simplicité. Il peut dormir dans des palaces tous les jours. Il dort dans la caravane avec les siens. Parce qu'on ne peut pas changer un gitan. Un gitan, il est comme il est. Et qu'il soit riche ou pas riche, il est toujours avec ses amis, c'est ses frères, et ils deviennent à la famille, les amis, vous voyez. Chez nous, c'est un ami, ça compte beaucoup. Et l'ami, c'est la famille, après, ça rentre dans la famille. Donc, de malentendu, il ne peut pas en avoir. Ce n'est pas possible. Vous voyez, même qu'on soit archi-milliardaire, moi aussi j'ai eu beaucoup d'argent. Et bien, j'ai resté toujours avec ma famille, et c'est la simplicité, la plus pure, et d'être gitan surtout.
Vous aviez un mot à ajouter, Christian?
Oui, j'avais juste une autre question, puisqu'effectivement on évoque les conditions. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un conflit en interne dans sa famille, par exemple, au sens le plus strict, pas dans l'ensemble de la communauté?
Non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que ça serait déjà vu, là-bas, c'est arrêté un peu d'artifice, vous comprenez-le. Parce que chez nous, il n'y a pas, je vous parle franchement, chez nous, il n'y a pas, s'il y a des trucs à régler, c'est nous qu'on les règle.
Oui, justement.
C'est justement ça.
Oui. On les règle, c'est pas en mauvaise, non, en bonne intention, pas en mauvais. Vous voyez, on ne fait pas la guerre. La guerre, on l'a fait en Russie, je ne sais pas où. Mais pas chez les gitans. On ne fait pas de guerre chez nous. Ouais. Il y a toujours un arrangement, vous voyez, avec les patriarches.
Je peux poser une question?
Non. Et de mettre toujours la paix. Mais là, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. Là, on se trompe carrément.
Merci, Nino Bayardo, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur BFM TV. Merci beaucoup à vous. On va refaire le point sur les derniers éléments de l'enquête. On le rappelle, la dernière information dont on dispose, c'est qu'il est sorti du bloc après avoir subi une opération chirurgicale ce soir, que le procureur annonce avoir ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Lui, Kenji Girac, parle d'un problème de manipulation de l'arme, d'un accident domestique. On va faire le point tout de suite avec ce reportage signé Fanny Regnault, Vincent Hénin et Colline Chambol.
Les gendarmes quittent cette aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse. Ils y étaient depuis tôt ce matin, après avoir reçu un appel à 5h30. Kenji Girac a été blessé par balle dans la nuit. Le projectile aurait touché le thorax du chanteur avant de ressortir par son dos. Cela faisait plusieurs jours qu'il était ici, en famille, dans cette communauté itinérante dans laquelle il a grandi. Depuis ce matin, il est hospitalisé à Pessac, en périphérie de Bordeaux. Mais que s'est-il passé la nuit dernière ? Le chanteur de 27 ans aurait expliqué aux enquêteurs qu'il s'agirait d'un accident domestique. Des témoins auraient précisé que Kenji Girac se serait tiré dessus accidentellement. Un pistolet a été retrouvé par les gendarmes près de l'endroit où le tir a eu lieu.
On sait que les gendarmes qui sont rendus sur place, notamment les techniciens d'investigation criminelle qui ont fouillé la zone, ils ont trouvé à proximité des lieux une arme de poing, un pistolet 9 mm de type M1911 américain qui a été retrouvé à proximité dans un buisson de l'endroit où est le tir. Le pistolet a été retrouvé sans chargeur, que ce soit à l'intérieur et pas non plus de chargeur à proximité. Est-ce que c'est l'arme qui a tiré sur Kenji Girac ? Ce sera à l'enquête de le déterminer.
Selon une source proche de l'enquête, des prélèvements doivent être effectués sur Kenji Girac, mais aussi sur sa compagne, pour savoir notamment si elle était présente au moment du tir.
On sait que des enquêteurs spécialistes, des techniciens de l'investigation criminelle, sont sur place et ont relevé des indices, des traces, des prélèvements, pourraient faire pourquoi pas de la balistique s'il y a le trace d'une passage d'une balle, faire des investigations sur le pistolet et tous ces éléments de preuve scientifique qui vont pouvoir le comparer avec les différentes versions, voir si cette version de l'accident domestique tient ou s'il y a autre chose derrière.
Cet après-midi, Kenji Girac a subi une opération. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une partie de sa famille est à son chevet.
Christian Flech, les enquêteurs donc tentent de retrouver des indices, puisqu'on le disait, un pistolet, une arme a été retrouvée dans un buisson à proximité. On ne sait pas si c'est l'arme utilisée et qui a touché Kenji Girac. Sans chargeur, sans balle. Qu'est-ce que les enquêteurs recherchent là à l'heure actuelle ?
Alors d'abord, effectivement, si on ne retrouve pas le projectile qui est passé au travers du corps et donc on ne peut pas localiser vraiment où ça s'est passé et on ne pourra pas avoir la certitude que l'arme qui a été retrouvée est l'arme qui a été utilisée. Ensuite, il peut y avoir la trajectoire entre le point d'entrée et le point de sortie qui peut donner un axe de tir et donc la façon dont l'arme a été pointée sur le corps et surtout, dans ces affaires-là, c'est les recherches de traces de poudre sur les mains, à la fois de la personne qui est blessée, et j'espère qu'on a pu le faire avec des soins médicaux, et donc c'est important qu'on ait pu le faire même à l'hôpital, même si plus tard ça peut être un peu plus compliqué, et puis des personnes qui sont autour et qui aussi ont pu avoir utilisé l'arme, si tant est qu'on comprenne, on essaye de comprendre ce qui s'est passé.
Alors, moi qui ne m'y connais absolument pas, des traces de poudre, donc, ça correspond à quoi
concrètement ? Ça veut dire que quand vous prenez une arme en main et que vous tirez avec, le projectile... la poudre qui sert à faire partir le projectile fait une espèce de vapeur et ça se retrouve sur la main. Il y a des composantes de la poudre qui sont retrouvées par expertise. Vous avez des façons de relever ces substances qui ensuite sont analysées au laboratoire de police scientifique.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs avec qui il se trouvait à ce moment-là, Kenji Girac ?
Non, aucune idée, puisque, comme l'a dit le procureur de la République, les circonstances des faits sont floues, restent à établir, et d'ailleurs le lieu exact aussi où c'est son produit. Donc, difficile de dire avec qui il se trouvait au moment où il a été blessé avec cette arme à feu.
On ne sait pas s'il était avec sa compagne, par exemple ?
Non, là-dessus, pour l'instant, ce n'est pas établi.
Et les poudres, ces traces de poudre donc, dont Christian Flech parle, est-ce qu'on sait si déjà il y a eu des études, des prélèvements ?
Alors, a priori, oui, il y a eu des prélèvements de ce qu'on nous a laissé entendre, notamment sur sa compagne. Mais après, est-ce qu'il y en a eu d'autres ailleurs ? Là, c'est impossible de le dire pour le moment.
Sur cette arme dont on parle donc et qui va être au cœur de l'enquête, vous souhaitiez faire une précision
tout
à l'heure.
Oui, puisqu'en fait, dans le communiqué de presse du procureur de la République, on parle d'un pistolet automatique de calibre 11. Alors, à ma connaissance, mais là-dessus, Guillaume pourra peut-être m'orienter, ça ne correspond pas à grand-chose. J'ai fait quelques recherches, on parle d'un revolver de calibre 11, mais là, on est sur un revolver qui serait plutôt ancien, donc qui daterait de la fin du 19e siècle. Mais là, un pistolet semi-automatique automatique de calibre 11, je ne vois pas, à moins qu'il y ait une erreur dans le communiqué et qu'il s'agisse d'un calibre 11-43. Tout ça pour rebondir sur les échanges qu'on a eus tout à l'heure avec le membre fondateur des Gypsy Kings, qui parlait d'une tradition d'armes de chasse. Enfin là, en l'occurrence, on n'est pas sur une arme de chasse. On est sur une arme de gros calibre, voire de très gros calibre, si c'est confirmé que c'est une arme de calibre 11-43.
Alors justement, on est avec un spécialiste de cette question, Jean-Pierre Bastier. Vous êtes président de l'Union française des amateurs d'armes. Peut-être une précision donc sur ce que dit effectivement le communiqué du procureur ce soir, qui parle d'un pistolet automatique de calibre 11. Oui. Que savons-nous sur cette arme ? Et est-ce que vous comprenez les interrogations de Stéphane Selamy sur le plateau ?
Tout à fait. En fait, il manque quelque chose à cette phrase-là. Un pistolet automatique, un Colt 45. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 45, c'est la dimension en pouces de la munition et ça correspond à du 11 mm 43. Donc, il manquerait quelque chose dans la phrase du procureur de la République et ce pistolet serait bien effectivement un Colt 45 en calibre 11 mm 43, contrairement à ce qui a été dit cet après-midi où on parlait beaucoup de 9 mm.
Est-ce que...
Allez-y. Oui,
Non, allez-y.
Alors, ce type d'arme se rencontre en France depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le Colt 45 1911, puisque c'est l'année de sa fabrication au départ, a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale par les troupes américaines et par les tankistes français. Et le modèle le plus évolué, le modèle 1911 A1, qui a été développé en 1926 de mémoire, et celui qui a été utilisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été parachuté en France en grande quantité pendant la même période. Et du coup, cette arme-là a été très utilisée par le grand banditisme dans les années 50-60. C'était leur arme de référence. C'est une arme de très gros calibre qui fait effectivement beaucoup de dégâts.
Est-ce que, est-ce que l'une des déclarations qu'on a pu entendre, ce qui aurait été dit par Kenji Girac, qui a pu s'expliquer un petit peu face aux enquêteurs, c'est qu'il aurait acheté cette arme dans une brocante. Est-ce que ça, c'est possible ?
Alors, j'en doute profondément, puisque c'est une arme de catégorie B. Ce n'est pas une arme de collection. C'est une arme qui nécessite, pour la détenir, une licence de tireur sportif. Et pour acquérir une licence de tireur sportif, il faut déjà avoir entre 6 mois et 1 an de présence dans un club de tir, un certificat médical qui dit qu'on ne peut pas nuire à la population générale par des troubles psychiatriques. Il faut l'avis du président du club de tir, l'avis favorable du président du club de tir. Et ensuite, ça passe par la préfecture. Donc, ça prend au bas mot 1 an de présence dans un club de tir. Avant d'avoir ce type d'arme, ça ne s'achète pas en 2 minutes. Sur une brocante avec un rouleau de billets à la main.
Quel est votre regard de spécialiste sur cette première version qui semble avoir été donnée, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'un accident, d'une erreur de manipulation et qu'il se serait pris cette balle dans le thorax par accident ?
Alors, c'est un petit peu compliqué sur le plan de la mobilité, c'est-à-dire... Alors, la première des choses, c'est que quand on est l'arme à feu, on la dirige vers personne, et encore moins vers soi-même. Et j'imagine mal qu'on puisse diriger une arme vers soi-même et appuyer sur la détente au risque de se blesser, comme ça a été le cas. Ensuite, sur le plan technique, il faudrait voir quel est le point d'entrée de la balle et le point de sortie, mais c'est assez compliqué de tenir une arme à la main et de la retourner vers soi-même. Surtout que c'est une arme de dimension relativement importante et qui a une pédale de sécurité à l'arrière. Tout ça me paraît un peu compliqué. Je ne veux pas m'avancer tant que je n'ai pas plus d'éléments. Après, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un autre élément qui va parler, c'est la trace de brûlure sur les vêtements et sur la peau, puisque si l'arme a été au contact direct de la personne qui a été blessée, il y a non seulement des traces de poudre, mais aussi des traces de brûlure, puisqu'il y a une flamme qui sort du canon, qui accompagne la balle à la sortie du canon. Et si c'est un tir de contact, on retrouvera des traces de brûlure sur les vêtements et sur la peau de Kenji. Il manque quand même des choses. Il manque aussi la balle qui n'a pas été retrouvée a priori. Et il manque aussi la douille, puisque c'est un pistolet semi-automatique. Ce qui fait que chaque fois qu'une balle est tirée, la douille de la balle est éjectée. Et théoriquement, elle tombe à un mètre ou deux de l'arme qui a été utilisée. Donc, il va falloir savoir effectivement si cette arme est bien la bonne, si elle a été tirée à brûle pourpoint, c'est-à-dire si on a pu se la retourner vers soi-même, et si les éléments qui manquent ont été retrouvés.
Il y a une sécurité sur ce genre de d'arme à feu ?
Alors oui, et c'est peut-être ce qui expliquerait l'accident s'il s'agit d'un accident, puisque ce pistolet est dépourvu de sûreté de chargeur. Or, on n'a pas trouvé de chargeur. Il se pourrait qu'il y avait une balle qui était engagée dans le canon et que l'utilisateur ait cru, comme il n'y avait pas de chargeur, que l'arme était vide. Malheureusement, s'il y avait une balle qui était engagée dans la chambre et qu'il a pressé la détente pensant qu'il n'y avait pas de magasin dans le pistolet, cette balle a pu partir indépendamment du fait qu'il n'y avait pas de magasin. Donc, en fait, on est en pleine conjoncture, puisque certains éléments sont en faveur de sa déclaration et d'autres paraissent s'en éloigner.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Bassier. Effectivement, c'est flou.
Oui,
pour reprendre les termes du procureur.
C'est tout ce qu'on disait déjà au début de l'émission sur cette arme, les conditions de son utilisation, le fait qu'elle a été retrouvée incomplète, le fait que le communiqué est lui-même peut-être imprécis sur le calibre. En tout cas, ça laisse assez circonspect et qu'il faudra des examens balistiques à minima, sachant qu'il manque des éléments, la balle, la douille. Et sans la balle, de toute façon, vous ne pouvez pas attester que l'arme et la balle correspondent. Parce que pour établir une correspondance, il vous faut évidemment les deux. Les armes laissent une signature sur les balles. Vous savez que la façon dont sont usinés les canons des armes font que ça strie d'une certaine façon la balle et que, en fonction des stries, on arrive à établir qu'une arme a bien été tirée par, enfin qu'une balle a bien été tirée par une arme en question. Mais il faut les deux.
Mais les services enquêteurs eux-mêmes et les services de sécurité, en mettant quand même une sécurité importante autour de Kenji Girac, laissent accréditer. Enfin. Qu'il y a des doutes sur le fait qu'il se soit lui-même tiré une balle et qu'il puisse être victime d'un règlement de compte intrafamilial.
Oui, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a un doute, effectivement, il faut prendre des précautions. Puis j'imagine aussi qu'ils doivent le protéger des journalistes qui doivent chercher à faire des photos et d'avoir un certain nombre de
choses. Oh, est-ce possible ?
Pas sur son lit, quand même.
Ça s'est vu.
Est-ce qu'il est possible, s'il ne dit pas, si on se rend compte qu'il ne dit pas la vérité sur les circonstances du drame, qu'il soit inquiété, Kenji Girac ?
Inquiété, je ne sais pas, mais en tout cas, si les gendarmes qui sont aujourd'hui chargés des investigations comprennent qu'il ne dit pas toute la vérité, je pense qu'à un moment donné, oui, il va subir quelques pressions, soit des enquêteurs, soit éventuellement de magistrats, mais il faudra qu'il puisse quand même s'expliquer clairement sur les circonstances de ce qu'il appelle, lui, un accident aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'empêche ?
Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a fait des déclarations qui ne sont pas relevées en procès-verbal, mais qui comptent quand même. Le gendarme peut tout à fait relever ce qu'il a dit sur un procès-verbal, et ça vaut quand même une certaine forme de déclaration. Maintenant, comme il n'est pas dans un état parfaitement normal, il est préférable d'attendre qu'il soit dans un état complètement compatible avec des déclarations qu'il signera et qui seront ses déclarations. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'attendre un peu ce qu'il va signer pour avoir la version officielle.
Et si l'enquête contredit formellement vos déclarations sur procès verbal et que ça prend le chemin d'établir que vous avez menti, vous pouvez évidemment être inquiété, comme tout citoyen. Les fausses déclarations sur procès verbal, peut valoir des poursuites.
La suite, c'est quoi ? C'est les auditions de Kenji Girac, de ses proches ? Ils vont procéder ?
Les études balistiques aussi.
Les études balistiques, oui. Après, la trajectoire d'un projectile, ça dépend de plein de choses dans le corps. Ça dépend s'il rencontre un os, par exemple, et ça peut dévier la trajectoire. Mais surtout, les recherches de traces de poudre. Ça, c'est ce qui me paraît le plus intéressant immédiatement. Est-ce qu'il en avait ? Est-ce que, comme le disait le spécialiste, est-ce que ses vêtements ont été brûlés ? Ce qui voudrait dire qu'il a été touché à bout portant touchant, ou à bout touchant. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on l'a tiré de beaucoup plus loin. Ça veut dire que c'est quand même compliqué et incompatible avec le fait qu'il ait tenu...
De se retourner l'arme contre soi-même.
Ouais, avec une perche à selfie.
Voilà, selfie. Ouais. Vous avez plein d'idées.
Après, il reste le ricochet de la balle. Mais bon, après, on peut faire plein de conjectures.
En tout cas, ce qui serait bien, c'est déjà de savoir où ça s'est passé. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent et qui ne le disent pas.
Et c'est ce que nous expliquait Boris Kharlamov sur place. C'est l'omerta. Très peu de gens parlent. On parle là d'une communauté très soudée, en apparence en tout cas, de la famille, des proches de Kenji Girac qui ne veulent pas parler.
C'est pour ça que si c'était aussi clair que ça, le plus simple, c'est de dire où ça s'est passé.
Ce qui se comprend aussi, puisque bon, peut-être qu'ils veulent aujourd'hui le protéger ou faire en sorte qu'il ne puisse pas trop s'exprimer pour le moment. En tout cas, vers l'extérieur, mais il sera forcément entendu par les enquêteurs.
Je pense qu'il faut juste faire un tout petit peu attention de la façon dont on parle justement de cette communauté, parce que je vois bien que effectivement, tout est très flou, mais il y a un truc qui est génial pour beaucoup de gens, c'est qu'il s'agit d'un gitan, et que de quelqu'un qui se réclame de la culture gitane. Et là, immédiatement, forcément, bah, il y a tous les fantasmes qui tournent autour de cette culture gitane.
Pas sur ce plateau,
armes,
en tout cas.
La violence, le clan, l'omerta, etc. En fait, on est juste peut-être face à des gens qui n'ont pas forcément envie de parler. Enfin, je veux dire, c'est arrivé plein de fois. Et moi, je me souviens, hein, sur le petit Émile, déjà, immédiatement, on avait dit, ah bah oui, mais c'est des cathos ultra pratiquants, etc. Ça doit être de leur faute d'une certaine manière, je sais pas quoi. C'est-à-dire que on projette. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la population gitane fait partie des plus discriminées en France, voire en Europe. Enfin, ils sont discriminés au niveau du logement, au niveau de leur rapport à l'État, à l'école, à l'hôpital, mais ils sont aussi discriminés parce qu'ils sont, porteurs pour beaucoup de gens dans la population, d'énormément de stéréotypes, mais qui sont absolument délirants, qui datent du 19e, voire du 18e siècle, et ils souffrent de ça. Et d'ailleurs, Kenji Girac, il en parle, oui. Il en parle assez souvent. Et aujourd'hui, je vois j'ai tapé Kenji Girac sur Twitter, c'est absolument atroce, l'avalanche de choses absolument horribles qui sortent, à la fois de blagues qui sont totalement déplacées vu l'état de Kenji Girac, et d'hypothèses sur tout ce qui pourrait se passer dans cette communauté de sa famille, de son clan, de son machin. Ça se trouve, c'est effectivement, c'est peut-être, pour l'instant, je vois pas ce qu'on a pour ne pas croire en fait Kenji Girac quand ils disent que c'est un accident. Oui. Ça peut être un accident domestique.
Simple fait, indépendamment des stéréotypes dont je comprends et je partage le fait qu'il soit scandaleux, c'est d'avoir une arme de gros calibre à 5 heures du matin.
Oui, mais en ça, sa tout à l'heure, je vous entendais brocante. C'est pas possible qu'il ait trouvé ça sur une brocante. J'ai tapé brocante obus dans Google Actualité. Oui. Alors, Saint-Ouen, c'est l'Est républicain. L'obus acheté en brocante explose et fait un mort. RTL Info, Lorraine, un homme tué par un obus acheté en brocante. Et tout ça, c'est en 2022-2023. C'est-à-dire qu'on vend n'importe quoi.
Mais oui, ça fait sourire Stéphane Selami. Pourquoi, Stéphane?
Mais non, mais on parle d'un
obus. On a le droit de vendre un obus en brocante?
Évidemment.
Eh bien, non, on n'a pas le droit.
Donc, laissez Stéphane répondre.
Ils ne se vendent pas.
Non, juste, je voudrais revenir sur des éléments précis donnés par le procureur de la République. C'est pas nous qui l'inventons et on jette pas l'eau propre sur une communauté. Il parle au départ de premiers témoignages recueillis qui paraissaient confus, tant sur les circonstances des faits que sur les lieux exacts où ils s'étaient produits.
Il serait pas gitan, il aurait exactement le même communiqué.
Et on s'interrogerait sur la provenance d'une arme, puisque
je suis d'accord.
Est-ce qu'on peut rappeler,
il y a une autre communauté en fait qui a beaucoup d'armes, parce que le monsieur de Gypsy King tout à l'heure, il disait oui, dans les communautés il y a beaucoup d'armes. Chez les stars aussi, il y a beaucoup d'armes. Ils ont souvent des armes chez eux. D'ailleurs, plus ou moins, homologuées ou validées par la justice.
Ne stigmatise pas les stars.
Stéphane, est-ce qu'on peut revenir sur les tout derniers éléments dont on dispose ce soir avant de refermer ce chapitre?
Oui, alors donc, on sait qu'il a été opéré dans la journée, hein, Kenji Girac, qu'il a subi une intervention importante, qu'il est donc sorti du bloc opératoire en fin de journée, qu'il a été admis directement dans un service d'hospitalisation classique, il n'est pas passé par un service de réanimation, et des consignes ont été passées, c'est une information BFM TV, aux agents de sûreté de l'hôpital pour assurer une sécurité renforcée autour de cet établissement et de sa chambre d'hôpital, et également probablement autour de patrouilles de police ou de gendarmerie qui pourraient effectuer des rondes plus soutenues autour de cet établissement hospitalier, soit parce qu'effectivement c'est un personnage public et certaines personnes pourraient être intéressées, on a parlé de journalistes, j'y crois peu personnellement, mais bon, qui seraient intéressées à venir le retrouver dans cette chambre d'hôpital, soit parce qu'effectivement il est quand même aujourd'hui au cœur d'une enquête sur une tentative d'homicide volontaire.
Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Évidemment, on continuera à suivre dans ces prochaines heures les évolutions de l'enquête concernant Kenji Girac, qui est donc conscient et qui est sorti du bloc. C'est aussi l'autre information que l'on retient. Merci beaucoup à vous.